Allez, on passe tout de suite au marché. Bah, c'est toujours la fête, hein. On est quasiment à 9% sur le CAC. Bon, évidemment, on était fermé vendredi. Le S&P 10%, le Nasdaq quasiment 10%, l'Eurostock 12%, le Nikkei plus de 20%. Quel comeback le Nikkei. Ça y est, on a revu les cours de ma jeunesse de décembre 1989. Shanghai 1,2%. Est-ce que les marchés... Alors, vous, William Higgins, quand vous voyez la valo, par exemple, du Nasdaq, d'accord, vous vous dites quoi?
Ça finira par s'arrêter, mais personne ne sait quand. C'est une bulle, mais...
Pour vous, c'est une bulle. Parce que moi, ma question, voilà, c'est ma grande blague, je la fais chaque semaine, c'est bulle ou boule, Market. Donc vous, vous dites bulle?
Sur le Nasdaq, c'est une bulle, mais disons, globalement, quand des sociétés gagnent énormément d'argent, c'est quelque part qu'elles ont un monopole.
D'accord. Donc, c'est pas une bulle? Si elles ont un monopole.
Au bout d'un certain temps, les pouvoirs publics en ont assez et cassent les monopoles.
Mais ça peut alors durer ça, vous voulez que je vous dise, et ça, c'est presque de la géopolitique, le domaine de Ben Aouda, je ne crois pas du tout au fait que les États-Unis cassent les monopoles parce qu'on est en guerre avec la Chine. Et donc aujourd'hui, vous n'allez pas affaiblir votre armée. Votre armée, c'est l'armée technologique. L'armée américaine, c'est Apple. L'armée américaine, c'est Amazon. L'armée américaine, c'est Nvidia. Est-ce que vous avez envie de détruire votre bataillon pour laisser les autres vous envahir? Cette histoire qu'on me répète à chaque fois, mais oui, à l'époque du pétrole, il y avait tout ça, et puis on a... c'est juste impossible, on ne le fera jamais. Vous ne croyez pas?
Quand on regarde ce que fait l'Europe par rapport aux grands d'Internet, ça peut se faire.
Mais c'est de la blague, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout, on file une amende de 800 millions à des boîtes qui en gagnent autant en quelques heures.
C'est un mouvement.
Donc vous y croyez? Donc vous pour
non,
vous...
mais je ne dis pas que ça sera immédiat.
D'accord.
Mais je dis que à la fin, les pouvoirs politiques n'aiment pas avoir des concurrents.
Donc là, pour vous, est-ce que la bourse est en bulle ou pas? Et est-ce que cette bulle va exploser ou est-ce qu'on a encore du potentiel pour monter?
Alors moi, je suis optimiste pour une raison cynique. En période de réarmement, les économies vont bien. Et ça explique pourquoi il y a une certaine euphorie un peu partout.
Donc vous vous dites que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée l'euphorie, c'est l'armée.
C'est l'augmentation des dépenses
militaires.
Comme quelque part c'est prioritaire, personne ne voit pourquoi ça va s'arrêter. Et traditionnellement, quand il y a des réarmements, il y a beaucoup d'inflation. Donc les gens se disent, les déficits publics, ça sera de l'inflation.
D'accord. Donc vous n'êtes pas inquiet, donc on continue.
Non, je suis inquiet plutôt pour des problèmes militaires que pour des problèmes économiques.
Pascal, vous êtes toujours très positive, ouais. Vous continuez à l'être. À raison, hein, puisque vous avez été positive depuis des mois et bon...
Je dis boule, je dis pas bulle, parce que la définition d'une bulle, c'est qu'en fait, vous avez des actifs qui enflent sans qu'il y ait des vraies raisons fondamentales. Or là, le rallye qui a eu lieu, il s'est quand même fait sur des croissances bénéficiaires qui sont significatives. Prenez l'exemple d'Nvidia que vous avez évoqué. La croissance du titre s'est accompagnée de croissance des bénéfices. Ça a quasiment matché. Quand vous regardez ce qui s'est passé en 2000, l'éclatement de la bulle Internet, on n'avait pas du tout une croissance des bénéfices comme on peut l'avoir aujourd'hui.
Donc vous dites pas bulle du tout?
En tout cas, la croissance de certaines de ces sociétés qui est assez phénoménale, elle est justifiée par des croissances bénéficiaires. Après, j'ai vu un chiffre qui m'a interpellé. Si vous prenez les 10 entreprises du S&P qui sont le plus dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça se paye 25 fois les bénéfices. En 2000, quand la...
Mais 25 fois les bénéfices, vous faites hurler William Higgins. Il n'achète pas une boîte qui
attendez
a plus de 3 fois les bénéfices. Stellantis, c'est trop cher pour lui.
Je voulais mettre ça en comparaison avec l'éclatement de la bulle Internet en 2000, justement, où on était à 43 fois les bénéfices. Donc là, pour moi...
Quand il y en avait.
Alors que là, il y a vraiment eu une croissance bénéficiaire. L'autre chose aussi qui me semble intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on a beaucoup d'alternatives pour investir notre argent. Et tout le monde ne va pas acheter Nvidia aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez aller acheter, vous pouvez investir en monétaire, vous pouvez acheter des obligations. Il y a d'autres pans du marché. Voilà. Mais il y a beaucoup de destinations, en fait, du cash. Et ça, moi, ça me laisse penser que ça permet aussi d'éviter de trop gonfler certaines bulles à certains moments.
Nvidia, par exemple, c'est une action que vous ne pourriez jamais acheter, William Higgins?
Non, mais je ne la regarde même pas.
Vous ne la regardez même pas?
Oui, non.
Mais vous ne la regardez pas, mais du coup, elle a fait x10, x100.
Beaucoup plus, oui. Non, mais
ça ne vous dérange pas?
Non, ça ne me dérange pas, oui.
Non, d'accord.
Non, mais en fait...
C'est à vous marcher à votre rythme sur l'autoroute, et ça ne vous emmerde pas qu'il y ait des voitures qui passent à 200 à l'heure?
En fait, Pour moi, c'était un problème statistique.
D'accord.
C'est-à-dire, globalement, en achetant les titres pas chers, on arrive à avoir un alpha de 6% sur 30 ans.
C'est quoi un alpha ?
C'est la surperformance par rapport au marché.
Okay.
A priori, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous ferez moins bien que l'indice.
D'accord.
Ce qui n'est pas le cas depuis 5 ans. Hein. Mais pour moi, c'est une période extraordinaire. Donc, je l'admire. Ça me rappelle, parce que j'ai une petite culture boursière, les années 60 où les sociétés en NIC, c'est-à-dire tout ce qui était électronique, a explosé. Ça a duré...
Non, j'ai eu peur.
Oui. C'est pour ça que je voulais vous rassurer. Ouais. Ça a duré 5 ans. Mais ça...
Même Valentine était choquée.
Voilà.
D'accord. Et donc, ça a duré ?
Ça a duré 5 ans.
Valentine, ce qui est intéressant, je vous ai révélé un nom ?
Non, pas du tout.
Vous avez l'air surpris, je vous interroge. D'où vient la liquidité ? Parce qu'on a l'impression que les banques centrales retirent de l'argent, les taux d'intérêt remontent, et pourtant, à chaque fois que je parle à tous les gérants, on me dit « Ah, mais il y a énormément de liquidité ». C'est pas un peu anachronique ?
Non, on voit que je pense que moi ce qui a porté les marchés jusqu'à présent, on voit depuis le mois d'octobre en fait, c'est le changement de ton de la Fed. La Fed qui a dit en 2024, nous allons baisser les taux, pas à cause de la croissance, mais à cause de l'inflation. Et jusqu'ici, on est dans un scénario qui est vraiment idyllique pour tous les actifs risqués, qui est une croissance qui résiste, une inflation qui baisse, qui est un peu plus forte que prévu, mais qui continue de baisser, et qui ne va pas empêcher la Fed de baisser ses taux. Donc moi, vraiment, ce qui est à surveiller pour continuer d'être positionné sur les actifs risqués, et ce qui peut sonner la fin du jeu, c'est si aux États-Unis, on a une inflation qui ne baisse pas autant que prévu.
Ça, c'est votre théorie.
Et exactement. Et qui empêche la Fed, et qui oblige la Fed à repousser son cycle.
D'accord, mais moi, ma question, c'est d'où vient les liquidités actuellement ? Puisque les banques centrales retirent des liquidités, les taux augmentent, c'est quoi ? C'est de l'argent des excédents budgétaires ? Pas des excédents, mais de l'argent qui est distribué par les États, c'est ça ?
Il y avait déjà des déficits budgétaires qui sont énormes, et déjà, on est sorti du Covid avec énormément de liquidités.
D'accord, mais on les a pas asséchés ? Il y a pas un
Non, on les a absolument. On les a absolument.
Quand le taux d'épargne d'Américains descend à 2,5%, alors qu'il était à 25% pendant le Covid, il y a bien moins de liquidités ou pas ?
Le taux d'épargne des ménages américains est aujourd'hui sur des plus bas, mais on a un effet richesse qui reste exceptionnel aux États-Unis avec un marché actions l'année dernière qui fait plus 20, un marché immobilier qui continue, qui reste résilient malgré les hausses de taux, et on a surtout les revenus réels des ménages américains qui sont en positif. Donc oui, il y a un taux d'épargne qui est bas, mais tant qu'on a un marché de l'emploi qui tient, des ménages américains qui gagnent plus que l'inflation et qui voient du côté de leurs actifs...
Et qui sont optimistes contrairement à nous.
Et qui sont optimistes. Après, attention.
Ah.
Non, parce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on là, on parle qu'il n'y a pas d'impact des taux sur l'économie aux États-Unis, mais on voit quand même aujourd'hui l'impact sur les parties les plus vulnérables de l'économie, sur les ménages les moins aisés qui ont 60% de leur bilan, de leur endettement qui est en taux variable, en préconso. Eux, ils souffrent. Et on voit les taux de défaut sur les cartes de crédit, les prêts auto qui sont à 8. Sur les entreprises aussi, ça, c'est à suivre. Si on voit les taux de défaut aujourd'hui, depuis le début de l'année, ils sont quand même sur des plus hauts historiques en nombre, hein, je ne parle pas en montant, je parle en nombre, de ce qu'on observe depuis 2009. Et si on est dans un scénario où la Fed ne baisse pas ses taux et les taux vont rester plus hauts plus longtemps, oui, on va commencer à voir l'impact de ces taux plus élevés se diffuser plus largement à l'économie. Donc la rapidité avec laquelle la Fed va baisser ses taux est extrêmement importante pour la dynamique de l'économie et pour le positionnement sur les actifs risqués.